14h56, on est en direct de Roanne pour le congrès Ville de France, un congrès sur lequel beaucoup, beaucoup de choses vont être dites, notamment sur comment la vie des élus locaux se déroule entre injonctions contradictoires, problèmes de lisibilité politique et bien sûr, in fine, des problématiques qui sont liées au budget, au levier possible des maires pour pouvoir faire fonctionner leur ville. Il y a encore quelques leviers qui existent. Voilà, il reste fort à parier que, bien évidemment, on redécouvre enfin la vertu des élus locaux. Je rappelle simplement que chaque jour, plus de 500 000 élus locaux travaillent quasiment gratuitement et que s'il n'y avait pas cette force collective en France, eh bien, la machine de nos communes ne fonctionnerait pas. Entendez-moi bien, 500 000 élus locaux qui gagnent très très peu. Ce sont des personnes âgées qui s'impliquent, qui pourraient aller jouer au golf, qui pourraient aller jouer ou aller à la pêche et vivre tranquillement. Non, ils s'impliquent dans leur village, dans leur ville, dans les hameaux et dans les centres-bourgs. Voilà, donc on est ravis d'être ici à Roanne. Tout à l'heure, je vous en ai parlé, un grand monsieur de la police nationale qui était avec nous, il a été patron du RAID, ancien député, essayiste et polémiste politique, il est avec nous, c'est Jean-Michel Fauvergue. Bonjour.
Bonjour, cher Sylvain.
Merci d'être avec nous, Jean-Michel. Alors, je ne peux pas ne pas en parler, puisque bien évidemment, alors vous êtes l'ancien patron du RAID, vous avez gravi tout l'échelon de la police jusqu'à devenir un policier d'élite, vous avez succédé à Amaury de Haute Cloque, et vous avez également, vous n'êtes pas contenté de ça, mon cher Jean-Michel, vous êtes présenté aux élections en 2017, me semble-t-il, au Parlement, et vous avez été élu dans la 8e circonscription de Seine-et-Marne, me semble-t-il, oui, c'est ça, de Seine-et-Marne, et vous avez fait un mandat de député. On se demande d'ailleurs quel sera le devenir de Jean-Michel Fauvergue, puisque finalement, vous avez été l'une des personnes qui avait d'ailleurs récemment commis un livre qui s'appelle « Ni capitulation, ni résignation, osons le courage ». Quand on lit votre livre, on se dit que ça fait un peu flipper au début. Le constat que vous faites est un constat dur, un constat sans langue de bois sur la sécurité, sur les problématiques d'absence de stratégie de la France sur le plan à la fois politique, mais politique judiciaire, et d'une certaine forme de prévention-répression, si je peux dire les choses comme ça, lutte contre l'islamisme radical, lutte contre le narcotrafic qui aujourd'hui gangrène la société française. Mais malgré tout, Jean-Michel Fauvergue, on sent dans votre livre un constat terrible, un constat alarmiste, mais en même temps, vous y apportez des solutions. Et a priori, quand on voit vos solutions, on se dit que ce n'est que du bon sens. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, tout à fait. Alors, on a parlé de beaucoup de choses. Et effectivement, ce livre-là, « Ni capitulation, ni résignation », en sous-titre « Osons le courage », c'est là où je suis assez optimiste. Il faut oser le courage pour trouver des solutions. C'est un livre qui s'attaque à des problèmes que je connais bien, des problèmes de sécurité, sécurité nationale, mais aussi sécurité internationale. Je parle beaucoup de la guerre en Ukraine et les conflits qui sont à nos portes. Mais aussi, c'est un livre sur ma deuxième partie de carrière, ma carrière politique. C'est un livre qui reprend aussi quelques constats que j'ai faits en tant que député. Au plus près des décideurs, de tous les décideurs, puisque j'étais député de la majorité. C'est très proche des ministres de l'Intérieur successifs, des premiers ministres, etc. Les problématiques politiques qui empêchent notre pays d'avancer. En fait, en réalité, il y a tout un chapitre qui est consacré au contre-pouvoir dans notre pays, qui, me semble-t-il, ont pris le pouvoir et empêchent les hommes et femmes politiques qui sont aux affaires, que ce soit aujourd'hui ou demain, de réformer notre pays. Avant de réformer notre pays, il faudra qu'ils réforment ces contre-pouvoirs-là. Non pas qu'ils les fassent disparaître.
On peut les nommer.
Ça va être long. Hein.
Oui, non, mais on va les
vous
nommer.
Vous avez le...
Le pouvoir législatif, le pouvoir...
Non, vous avez...
Le pouvoir judiciaire.
Vous avez déjà les cinq cours suprêmes. La France a cinq cours suprêmes, là où d'autres pays n'en ont qu'une. La France a le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation. Au niveau européen, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. Et ces contre-pouvoirs-là ont des exigences et des jurisprudences qui sont antagonistes et qui peuvent à tout moment casser, et ça s'est vu récemment, casser le travail que font les élus qui sont élus par le peuple et pour le peuple, les élus de la nation, qui, eux, essayent quand même des solutions, essayent d'avoir des solutions, mais se font strafer par un ensemble de contre-pouvoirs. Alors, et à ces contre-pouvoirs-là, je peux en citer d'autres, les fameuses autorités administratives indépendantes, l'ARCOM, la CNIL, la défenseur des droits, la défenseur des lieux de détention, qui sont complètement indépendants de tout et qui jouent souvent contre l'État lui-même.
Donc ces strates-là sont délétères ?
Ces strates-là
sont... On a créé un millefeuille.
Ces strates-là sont non contrôlées. Et par exemple, les lieux de détention, ben, c'est aux députés et aux sénateurs à les vérifier. Ce n'est pas à une autorité indépendante qui... voilà. Donc là, on a des problèmes. Il y a d'autres contre-pouvoirs qui sont le contre-pouvoir d'ONG ou d'associations qui sont, pour certaines, hein, pas toutes, bien évidemment, à qui on a délégué des pouvoirs de puissance publique et qui sont complètement indépendantes de l'État et politiquement engagées, très engagées sur, en général, l'extrême-gauche. Hein. Et puis, vous avez aussi... comme contre-pouvoir, ce qu'on appelle les barrières invisibles, c'est-à-dire toutes les administrations qui... Vous savez, l'administration est là pour administrer. Il y a un très beau bouquin qui a été fait récemment par un maire, par le maire de Saint-Raphaël, qui est Frédéric Masquelier, qui est sur ce qu'il appelle la bureaucrature.
La bureaucrature.
La bureaucrature. Le pouvoir de la bureaucrature, eh bien, on les a dans les administrations. Donc, il faut réformer les administrations. Il faut que les députés s'intéressent à ce que deviennent leurs lois et à ce qu'en font les administrations. Il faut que les administrations appliquent ça. Tout ça, c'est des contre-pouvoirs qui en fait, ont pris le pouvoir et qui nous empêchent... Alors, la norme, évidemment, etc.
C'est sûr.
Qui nous empêchent... qui empêche notre pays.
Toutes ces structures-là, on a l'impression qu'elles fonctionnent par elles-mêmes parce qu'elles coûtent de l'argent à l'État. Beaucoup d'argent à l'État.
Ouais.
Est-ce que c'est une façon aussi, dans une certaine mesure, on va se dire les choses directement, de placer les personnes qui sont parfois en perte de mandat,
ouais,
politique, et de créer finalement des instituts, des groupements, des associations qui vivent directement ou indirectement par les subsides de l'État pour justifier ces fonctionnements. Parce que là, ce que vous dites finalement, c'est qu'on vit une hyperstructure, une hyperinstitutionnalisation au détriment même du fondement qui a présidé à les créer. Est-ce que c'est, oui, une erreur de...
Non, c'est pas une erreur de jugement. Je pense que vous avez dans le fond...
C'est un peu la théorie de Parkinson, vous savez, une institution, ouais, qui fonctionne par elle-même sans, en oubliant le point de départ qui a présidé à sa,
ouais,
création.
Oui, ouais, non, mais vous avez raison dans l'ensemble sur un certain nombre de choses. Il suffit de voir non seulement les dernières nominations, hein, dans certaines instances,
ah oui,
mais les nominations qui ont été faites pendant des décennies.
Mais tout
le monde a fait pareil. Hein.
Mais c'est vrai.
Oui.
Ancien DIRCAM, ancien attaché.
Oui, bien sûr. Mais bon.
Oui, il faut leur trouver du boulot.
Évidemment, la problématique, c'est qu'une fois que vous avez... Vous avez créé la structure et vous avez nommé les gens à l'intérieur. Eh bien, les gens veulent, alors pour savoir ce qu'ils vont faire, eh bien, ils font comme tous les autres, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ils vont emmerder ce qu'ils bossent, les gens qui bossent.
Ils veulent. Justifier leur boulot. Quoi.
Écoutez, je vous donne un exemple simple dans un domaine que je connais bien, qui est la police nationale. La gendarmerie, on pourrait dire pareil, partout, on a une police nationale. Vous avez des états-majors, vous avez des cellules de coordination, vous avez des tas de trucs qui, à un certain moment, se demandent comment je vais bosser. Eh bien, ils vont demander des reportings aux gens qui sont sur le terrain. Les gens qui sont sur le terrain ont un travail à faire contre la criminalité, mais en plus, ils passent leur temps à faire des reportings pour ces gens-là. Et pour... Alors oui, il faut... tout ça est transformable. Et là où je suis optimiste, et vous avez raison de le souligner, je suis optimiste parce qu'on est arrivé à un tel niveau que ça va être facile de transformer les choses.
Vous feriez quoi ? Est-ce qu'on fait table rase ? On supprime tout ça ?
Moi, je constate déjà qu'un certain nombre...
On fait le ménage
qu'un certain nombre de candidats ou de candidats putatifs ont déjà dit, et je suis d'accord avec eux, ça sert à rien. Allez, on va l'enlever. Ça sert à rien. Il y en a qui s'interrogent sur l'ARCOM, il y en a qui s'interrogent sur d'autres autorités administratives indépendantes. Il faut, à un certain moment, s'interroger sur la nécessité d'avoir un conseil économique, social et environnemental. Là, c'est plus à l'ordre du jour, mais interrogeons-nous sur ce à quoi ça sert. Alors, la problématique, c'est pas que tant que ça coûte de l'argent et que...
Parce que ça en coûte, hein.
Oui, bien sûr, ça en coûte énormément. Et que ça freine l'ensemble de l'État. La prérogative, c'est que ça joue contre l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est le thème c'est un des thèmes de mon bouquin, aujourd'hui, on ne joue pas collectif, on joue le droit individuel. C'est que chaque personne qui détient une partie du pouvoir, celle que j'ai citée, on peut citer aussi les magistrats, du judiciaire, de l'administratif, etc., eh bien, ils défendent aujourd'hui un droit individuel contre l'État. C'est-à-dire que l'État est souvent condamné. Or, si vous condamnez l'État, eh bien, vous ne travaillez plus en communauté.
Bien sûr.
Et notre vie commune n'existe plus.
Alors, on va revenir sur le point de départ, effectivement, de votre livre. C'est l'expérience du Bataclan qui vous a conduit au livre. Ni capitulation, ni résignation. Parce qu'il faut quand même aller plus loin, parce que le diagnostic, vous l'avez fait sur les institutions de l'État. Et quand vous parlez de sécurité intérieure, de terrorisme et de narcotrafic, vous insistez particulièrement sur la sécurité intérieure, vous critiquez l'absence de stratégie globale contre le terrorisme, vous y allez fort, contre le terrorisme et la manière dont la France gère le narcotrafic, dont on parle de plus en plus dans le pays, avec même des territoires quasiment perdus de la République, des territoires où même la police n'entre plus. Et vous faites un truc, et vous soulignez de plus un paradoxe entre une législation qui est théoriquement répressive, mais selon vous, très peu efficace, et vous pointez les angles morts judiciaires, notamment carcéraux et technologiques, qui empêchent d'avoir une politique cohérente. Tout ça, quand vous le décrivez, vous le décrivez véritablement au vitriol.
Ben oui, parce que moi j'ai l'expérience de 40 ans de police, où j'étais 40 ans de police sur le terrain, commissaire de terrain.
Oui.
Et j'ai fini au RAID, mais auparavant j'avais des commandements de terrain. Dans la fin des années 80, j'étais au STUP, j'avais sous mes ordres le service STUP de la Seine-Saint-Denis, ce qui n'est pas rien. Et la situation, depuis, ne s'est pas améliorée, loin s'en faut. En fait, qu'est-ce que je dis dans mon livre ? Je dis que sur un ensemble de problèmes qui sont importants, que ce soit le terrorisme, que ce soit les narcotrafics.
Mais prenons le terrorisme, s'il vous
plaît. Alors, prenons le terrorisme.
Le terrorisme auquel vous avez été exposé, avec d'une violence inouïe, quoi. Parce que vous y étiez au Bataclan. Hein.
Oui, tout à fait. Sur le terrorisme, ce que je dis réellement, c'est que dans le combat contre l'attentat terroriste et ce qui se passe avant l'attentat terroriste, pour éviter un attentat terroriste, on a toujours été bon. On a toujours combattu ça. Et tous les gouvernements, là, il faut leur reconnaître ça, ont joué dans ce sens, avec une législation importante qui a évolué, avec des moyens qui sont donnés à la police, à la gendarmerie, au service de renseignement,
au parquet,
enfin, tout ça. La justice, de ce point de vue-là, et c'est un des seuls endroit où elle n'a pas eu la main qui tremble, elle n'a pas la main qui tremble de ce point de vue-là, c'est un des seuls endroits où elle n'a pas la main qui tremble. Donc on a été bon. Ce sur quoi on n'a jamais été bon, c'est sur le terreau du terrorisme. Pourquoi on est des attentats terroristes ? Parce qu'auparavant, il y a tout un mouvement de fond qui s'appelle l'islam politique, le terreau du terrorisme, qui dans nos banlieues, ou ailleurs d'ailleurs, fait naître des apprentis terroristes. Et ça, il faut qu'on le combatte corps et âme, qu'on combatte les frères musulmans, qu'on combatte les salafistes, mais qu'on le combatte réellement et vraiment. Et je dirais que dans les décennies qui nous ont précédés, on n'a pas pris conscience de ça. Et je pense que pour le coup, le seul qui a pris conscience de ça, en tout cas qui l'ait dit dans un discours en banlieue parisienne, c'est Emmanuel Macron. Et donc, il y a eu une loi qui a été... Mais elle ne va pas assez loin. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que je donne dans mon livre un exemple qui est remarquable. C'est-à-dire que après l'attentat du Bataclan, que moi j'ai vécu en direct, j'étais au Bataclan. Après l'attentat du Bataclan, le président de la République d'alors, M. François Hollande, a pris la parole devant le Congrès, c'est-à-dire les députés et les sénateurs à Versailles, et il a porté un projet d'échéance de nationalité. Vous en rappelez ça, Sylvain ?
Absolument.
D'échéance de la nationalité.
Absolument. Qui avait fait d'ailleurs couler...
Et les députés et les sénateurs, comme un seul homme, se sont levés, l'ont applaudi, ont entonné une Marseillaise à vibrer. Sauf que quelques semaines après, pas très longtemps après, la droite, reniant ses idées, a voté contre. Elle n'allait évidemment pas faire plaisir un président socialiste, bien évidemment. Et la gauche, qui était fragmentée, vous vous rappelez les frondeurs, reniant son chef, a voté contre aussi. Donc il n'a pas pu le voter. Mais qu'est-ce qui est passé à la trappe ce jour-là ? Ce jour-là, c'est l'intérêt du pays, de la France, qui est passé à la trappe. L'intérêt de la France et l'intérêt des Français.
Si cela s'était passé, Jean-Michel Fauvergue, est-ce que cela aurait été un point d'accélération et un point positif de lutte contre, effectivement, l'islam politique ? Parce que oui. Moi, j'ai envie de vous poser cette question qui est très directe et que certains journalistes ont parfois du mal à la poser. L'islam est-il soluble dans la démocratie, selon vous ? Est-ce que, quand on a une population qui correspond à 5, 6 ou 7 millions de musulmans, est-ce que le fait que ces musulmans français, qui travaillent tous les jours, qui ne demandent rien d'autre que d'être des citoyens français de confession musulmane, est-ce que la stigmatisation d'une écrasante majorité de cette population peut avoir des effets délétères ? Autrement dit, je vais être plus clair, certains politiques aujourd'hui disent que c'est l'islam tout court qui est une difficulté, ce que je trouve absolument fou, parce que ça voudrait dire que n'importe quel autre type de religion serait complètement singularisé. C'est quoi votre position ? Vous dites, vous l'affirmez devant nous tous, c'est l'islam politique, c'est l'islam radical, c'est
l'islamisme.
C'est l'islamisme. On ne parle pas de l'islam en tant que tel, qu'on respecte absolument, bien évidemment, mais vous parlez d'islamisme politique. C'est important de faire des sélections, vous avez compris.
Je vais vous dire, Sylvain, si moi aujourd'hui j'étais candidat à la présidentielle, le discours que je ferai, et j'espère qu'un jour nos candidats modérés vont faire ce discours-là, le discours que je ferai vis-à-vis de nos compatriotes musulmans, des Français musulmans, qui pratiquent la religion...
Des Français à part entière.
Des Français à part... Je leur dirai, les amis, vous êtes Français. Moi, je vous aime, je veux votre vote. Je veux votre vote parce que je vous défendrai. Je vous défendrai contre les islamistes. Je vous défendrai contre ces fascistes-là qui se servent de votre religion pour tuer des gens et pour massacrer dans des théâtres dans lesquels j'ai mis les pieds. Et moi, je vous défendrai là-dessus. Et je veux votre vote parce que vous êtes des Français. Vous êtes mes frères. Vous êtes des Français à part entière. C'est ça qu'il faut leur dire aux musulmans. Et ne pas laisser ce discours-là à des extrémistes, soit à droite, soit à gauche, qui recherchent, qui fraternisent pour les uns à l'extrême gauche avec les islamistes, avec le CCF, qui n'existe plus, ouais. Et qui recherche le vote de la communauté, et de l'autre côté, des gens qui vous disent ça va être le grand remplacement. Là, je parle de la droite.
Quoi. C'est intéressant de vous entendre, parce que vous faites de la politique également. On entend rarement ce discours, vous en avez conscience, parce que justement, merci pour la transition, crise du courage politique des élites, au cœur du livre se trouve l'idée du courage politique. Nommer les menaces, affronter les tabous et renoncer à la cécité. C'est incroyable. Renoncer à la cécité volontaire des élites.
Oui.
Alors là, je vais vous dire, c'est pas du balayage que vous faites. Hein. C'est un nettoyage en rond.
Mais parce que...
C'est bien.
Mais parce qu'il faut le dire à un certain moment.
C'est presque une vision... Enfin, pardonnez-moi, Jean-Michel, mais c'est presque une vision gaulliste. Hein,
Moi, j'essaie de le dire sans méchanceté, mais avec la grande expérience que j'ai sur le terrain et l'expérience politique. Ce que je vous ai dit sur l'islamisme, c'est-à-dire l'extrémisme, la radicalité religieuse, on peut le dire pareil sur la lutte contre les trafics. Sur la lutte contre les trafics pendant les dizaines et des dizaines d'années, ça date pas de Macron, ça date de dizaines et dizaines d'années, on n'a jamais eu de stratégie politique de lutte contre le stup. On a des stratégies. Des stratégies qui sont des stratégies opérationnelles de la part de la police.
Mais à quoi vous attribuez cette absence de stratégie ? Parce que ça ne date pas d'hier.
Parce qu'il n'y a pas de vision.
Alors, dans les années 70, on a la French Connection qui a fait hurler les trucs. On avait les casinos de Nice avec...
Mais qui c'est qui a réagi ? C'est la police, la gendarmerie, les douanes.
Avec la mafia corse et la brise de mer qui avait mis en coupe réglée pendant les années 80. On a aussi d'autres courants dans le centre de la France. Enfin, tout ça a été connu.
Alors, à quoi j'attribue ça ? La lutte, ces luttes-là, et la lutte, en particulier la lutte contre les stupes et contre les autres... Attention, on parle beaucoup de stupéfiants, mais moi, je pourrais vous parler des heures et des heures d'un trafic qui monte de manière phénoménale, qui est, par exemple, le trafic des cigarettes de contrebande et des cigarettes de contrefaçon. Derrière la contrefaçon, vous avez des mafias de l'Europe de l'Est qui viennent vendre les cigarettes de contrefaçon sur le territoire. Et le trafic des cigarettes aujourd'hui, et là on est dans un...
C'est horrible, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Alors oui,
ça se trouve.
Ça rapporte 3 milliards, à minima, 3 milliards par an au réseau.
Et ça se vend comment? Ça se vend sous le manteau?
Ça se vend dans la rue. Ben, parlez-en aux maires, on est là sur un congrès, ouais, un congrès avec des maires. Ouais. Ça se vend dans la rue, ça rajoute de la criminalité à la criminalité de voie publique, c'est pas la même criminalité que les réseaux, et ça se surajoute. Et on a une criminalité qui monte, et tout le monde ferme les yeux, à part les maires, à part les édiles locaux. Et oui. Les édiles ont des problèmes importants, qui sont ces problèmes aussi de trafic dans des structures de nuit, des épiceries de nuit, les épiceries qui ouvrent H24, qui vendent de tout, qui vendent des stupes, qui vendent protoxyde d'azote, qui vendent des cigarettes, etc., etc. Et donc, vous me demandez à quoi j'attribue ça, ce manque de stratégie politique. Je l'attribue tout simplement au fait que droite et gauche, pendant longtemps, se sont servis de ces combats-là pour se positionner différemment les uns des autres, en disant, attention, vous voyez... ce qui est en train de faire les gens qui sont au pouvoir. Moi, quand je serai au pouvoir, regardez mes petits muscles, ça va être différent. Moi. Ça, c'est plutôt la droite. Quand la gauche était dans l'opposition, elle disait pop, pop, pop. Vous voyez ce qu'ils font là. Moi, ça sera plutôt l'éducation, le préventif, etc. Et quand les uns et les autres étaient au pouvoir, eh bien, ils se heurtaient au mur des réalités des choses. Et chacun faisait exactement la même politique. C'est pour ça qu'on n'a pas avancé depuis. Il faut véritablement une stratégie. Et j'en propose une dans mon livre.
Pilotage national de la criminalité organisée.
Oui.
Vous parlez de trois axes. Ensuite, vous parlez, deuxième axe, renforcer la chaîne pénale et les techniques d'enquête. Et enfin, le troisième, les zones sensibles et les ports, les aéroports, s'attaquer au blanchiment et aux blanchisseuses. Alors là, bravo, bienvenue. Bienvenue. On peut les appeler, hein, les blanchisseuses. Hein. Pressing, tabac, bar...
Les barbershops, voilà. Etc.
Ouais, les barbershops.
Non, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'à un certain moment, la problématique qu'on a aujourd'hui sur les stupes et sur les autres réseaux aussi, j'insiste sur les réseaux qui sont en train de nous péter à la gueule, c'est les réseaux de la clope, la cigarette. Aujourd'hui...
On en parle peu de ça.
Ben oui, mais la cigarette est devenue tellement chère.
On parle de cannabis, on parle de drogue, de cocaïne, on parle de on ne parle pas de trafic de...
Nous nous sommes créés, les pouvoirs publics se sont créés eux-mêmes leur propre criminalité en ce domaine-là. Ils ont taxé les paquets de cigarettes de manière très forte pour faire descendre le tabagisme. Le tabagisme est descendu jusque dans les années 2019. Depuis, il est étalé, ce tabagisme. Et les paquets de clopes ont continué à remonter. Ceux qui fument, c'est les classes les plus basses de notre société, ceux qui ont le moins de fric. Où est-ce qu'ils vont acheter leurs cigarettes? Ils vont l'acheter en contrebande, en contrefaçon. En plus, quand vous achetez une cigarette dans la rue, vous n'avez pas vraiment l'impression que vous êtes en train de commettre un délit. Donc, voilà. Donc, ils achètent ça. Et vous avez un peu moins de 50% des cigarettes qui sont achetées hors bureau de tabac. Parlez-en aux buralistes. Les buralistes, c'est les interlocuteurs.
Mais il y a quoi dedans, Jean-Michel ?
Alors, sur la cigarette, cigarette de contrebande, c'est une cigarette normale. Elle est achetée à l'étranger et elle est ramenée ici en grande quantité. Sur la cigarette de contrefaçon, il y a de tout et n'importe quoi. C'est hyper nocif. C'est hyper dégueulasse comme produit. C'est quelque chose de terrible. Et on ne lutte pas assez. On est toujours en train de se poser la question... Est-ce qu'on va encore taxer le paquet de cigarettes ou non? À un certain moment, il faut arriver à combattre ça.
Aujourd'hui, on a des paquets de cigarettes à 14 euros.
Oui, 14 euros aujourd'hui, alors qu'ils sont à 7 ou 8.
Quand on est dans les zones les plus pauvres, et vous parlez de population de précarité, qui a les moyens de se payer un paquet de clopes à 14 euros?
C'est pour ça que...
Non, mais ça, c'est un appel au crime.
Ben, c'est pour ça que la moitié des consommateurs, de la moitié des consommateurs, oui, vont l'acheter au black et au machin.
Comment faire? Alors, okay.
Eh ben, comment faire?
On fait comment, Jean-Michel Fauberg, pour endiguer le trafic de clopes?
Eh ben, d'abord, le trafic de cigarettes, il faut le considérer comme un vrai trafic. C'est pas parce qu'on va acheter la cigarette dans la rue qu'on se dit oh, c'est gentil, c'est
mais
une cigarette.
Mais on pénalise le client,
le consommateur, et on pénalise le vendeur. Et il faut, puisqu'on est dans un congrès des maires, il nous faut plus de pouvoir aux maires, il faut plus de pouvoir aux polices municipales qui puissent saisir et détruire les paquets de cigarettes, et plus de pouvoir avec une amende pénale forfaitaire de 200 à 300 euros.
C'est pas un peu dur, ça, de dire que des personnes qui n'ont déjà pas un rond, qui n'arrivent pas à se payer des paquets de clopes à 14 euros, parce que c'est quand même très cher, et qui ont envie de fumer, c'est leur liberté, d'en plus les rendre coupables de délits de consommation.
Mais
c'est loin... pas ça un peu dur? On parle pas de la même chose.
Vous êtes en train de demander à un flic... Je suis flic dans l'âme. Si lutter contre la criminalité, c'est dur.
Non, Jean-Michel, vous m'avez très bien compris. Vous l'avez dit vous-même, il y a des gens qui n'ont pas de moyens.
Oui.
Et vous êtes compatissant là-dessus. Oui. D'ailleurs, vous portez les couleurs de cette position. Elle vous a élu en partie quand vous étiez député. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est dur de se dire que ces gens-là, qui par la contrainte, parce qu'ils ont envie de fumer, de pouvoir payer 6 ou 7 euros de moins que ce qu'ils devraient payer par ailleurs. Est-ce que le fait de les stigmatiser, eux, c'est une bonne solution? Est-ce qu'il vaut pas mieux, Jean-Michel, s'attaquer à la vraie racine du mal?
C'est-à-dire
bah, les fournisseurs,
mais bien sûr.
Les réseaux,
non, mais faut s'attaquer à
les
tout.
Stocks.
Non, c'est pas comme ça que ça marche, Sylvain. Sur un travail contre un réseau, si on veut, à un certain moment, avoir du résultat, il faut s'attaquer sur toute la chaîne.
Y compris les consommateurs.
Oh, sur les stupes en particulier. La France aujourd'hui, il y a 17 millions de personnes qui ont déjà tâté du produit une fois, et vous avez 5 millions de personnes qui sont consommateurs d'habitude. Donc eux, effectivement, quand vous achetez un produit licite, évidemment qu'il faut le taxer. Sur le produit licite qui est la cigarette, je veux bien revenir là-dessus, on a aujourd'hui un paquet à 14 euros. Alors, le paquet est monté. Peut-être, ce qu'il faudrait, c'est, alors, je suis pas persuadé qu'il y ait une baisse du paquet, mais qu'il y ait au moins un moratoire, qu'on arrête maintenant d'augmenter. Si on veut commencer la lutte là-dessus, parce que ce qui va arriver demain, la problématique c'est pas les consommateurs. D'ailleurs, je vais peut-être vous surprendre. Même au niveau des stupes, moi, je trouve que c'est leur problème. C'est pas les consommateurs la problématique. La problématique, c'est tous les réseaux que vous avez derrière, tous les règlements de compte que vous avez derrière, toute l'insécurité que vous avez derrière, toute la voie publique est occupée par eux que vous avez derrière. Il va falloir les refluer.
Attention, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous suggérez peut-être l'entremise d'un nouveau débat autour de la légalisation potentielle.
Attendez. Je vous amène à lire mon livre.
Oui,
là-dessus.
Oui,
il y a un paragraphe.
Oui. Alors, justement, alors, on ne peut pas faire 3 heures là-dessus, malheureusement. Et on va devoir conclure. C'est passionnant de vous écouter. Moi, je vais vous dire, Jean-Michel Couvergue, ne cessez pas. Voilà. Ne cessez pas de continuer à vous battre. Vous êtes présent partout. Vous publiez. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous republiez un livre, justement, sur les échéances majeures, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'on vit à l'aube d'un bouleversement sans précédent dans la Ve République, hein, j'insiste bien. J'aimerais justement, il vous reste une minute, vous entendre sur le sujet. 2027 est une période critique pour la France depuis la naissance de la Ve République. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Et comment vous voyez, vous qui avez bien connu notre président actuel, puisque vous avez été porté par Emmanuel Macron également, à vous présenter à la députation en 2017, voilà, quel constat vous faites aujourd'hui de la situation en tant que telle et surtout de cette échéance à venir? Vous la sentez comment selon vous?
Alors,
objectivement.
Il vous a pas échappé que gauche et droite ont explosé, laissant un grand centre.
Congédié, on peut dire.
Laissant un grand centre qui maintenant est invertébré, plutôt invertébré. plutôt invertébré aujourd'hui, et laissant la part belle aux extrémistes. Voilà.
Aux extrémistes, pas fait, celle-ci.
Laissant la part belle aux extrémistes à la gauche, à la droite nationale, on va dire nationale, et ensuite une droite extrême. Donc, en fait, le combat, c'est extrême contre extrême aujourd'hui. Mais la plupart des Français n'en veulent pas. La plupart des Français veulent des gens raisonnables, mais avec des réponses qui soient des vraies réponses sur la sécurité, sur la justice. On n'a pas parlé de la justice. Sur la sécurité, sur la justice, sur l'immigration. Si vous avez... Regardez au Danemark aujourd'hui. Au Danemark, vous avez une dame qui a été réélue pour la troisième fois, qui est social-démocrate, et qui, sur l'immigration, a des solutions qui font pâlir d'envie le Rassemblement national. Eh bien, aujourd'hui, il faut que les raisonnables de la politique portent ce que les Français veulent qu'ils portent, c'est-à-dire la lutte contre l'insécurité, restructurer cette justice qui véritablement ressemble à rien aujourd'hui et qui est un vrai problème plutôt qu'une solution, travailler sur l'immigration, travailler sur le pouvoir d'achat, etc.
Vous voulez que je vous dise, Jean-Michel, vous m'inspirez une citation, une remarque d'humour de Général de Gaulle. Il disait, l'important dans la vie, c'est pas de sortir de Polytechnique, mais de sortir de l'ordinaire.
Oui.
Ben vous sortez vraiment de l'ordinaire et on a envie de vous écouter beaucoup plus. On peut toujours trouver votre livre dans les bacs, je précise, sur Amazon, à la FNAC, en digital, vous pouvez le commander. Ni capitulation, ni résignation, osons le courage, aux éditions Fayard. Voilà, qu'on peut trouver, bien évidemment. On va vous mettre d'ailleurs le titulé du livre sur le podcast. Vous pouvez bien sûr liker, commenter, sans aucune réserve, mais avec toujours beaucoup de bienveillance. Il est exactement... Voilà, 15h26, on va reprendre le cours de nos programmes. Merci Jean-Michel Fauvergue.
Merci Sylvain.
Ancien député, ancien patron du RAID. On vous retrouve tout à l'heure pour la suite de nos programmes ici à Roanne.